Bonjour, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce 19e podcast Panenka, le fameux Panencast, pour parler de la fin de la campagne des Bleus pour les qualifications pour l'Euro 2012 et le double match contre l'Albanie et la Bosnie. Avec nous, le grand gourou de Panenka, c'est un peu notre renubarbe à nous, voilà, c'est lui, c'est Florent. Salut Flo.
Salut.
On a également Bruno, des Chroniques Bleues. Salut Bruno.
Bonsoir.
Raphaël, l'inénarrable Raphaël, Tizanopoulos de la Magère.
Ouais, le site en ligne un jour sur deux à cause des Russes.
Voilà, là, victime de la perestroïka ouais. En ligne, voilà, la Magère, excellent site. Et puis donc, on a Julien, salut Julien, de World of Football.
Tout à fait.
Bienvenue, bien messieurs, ravi de vous avoir avec nous ce soir pour parler de cette double confrontation qui a été un petit peu dure pour les cardiaques, surtout hier soir, puisqu'on enregistre là le podcast le lendemain de ce France-Bosnie gagné match nul, un partout, entre la Bosnie et l'équipe de France on va aussi également parler du match contre l'Albanie. Deux matchs un petit peu tendus. Il fallait pas énormément de points pour passer, mais ça a quand même failli être direction les barrages encore une fois. Florent, ton sentiment toi après ces deux matchs ?
Oui, c'était très très chaud. On a eu un premier match un petit peu, on va dire, pour s'échauffer face à l'Albanie, vu que l'opposition n'était pas énorme. Et en plus, la Bosnie avait fait le boulot un peu plus tôt face au Luxembourg en l'emportant largement. Je crois qu'ils avaient gagné 5-0. Donc voilà, c'était assez écrit que ce serait que tout se jouerait lors du dernier match. Et on s'est retrouvé dans une situation avec un match quasi couperé pour l'équipe de France, même si derrière il y avait la possibilité des barrages, etc., de passer quand même. Mais on s'est assez retrouvé dans une situation similaire à celle du Irlande-France des barrages de la dernière Coupe du Monde, où on a vu une équipe de France totalement inhibée sur la première mi-temps, qui n'a pas vu le jour et qui finalement a réussi à passer, mais par la toute petite porte à la fin du match. Il y avait quand même de la déception pour les Bosniens, en tout cas de mon côté.
Alors, en l'occurrence, les Bosniens qui, eux, vont jouer les barrages, ce qui est pas totalement immérité, je veux dire dans le bon sens du terme, vu la progression de cette équipe. On aura l'occasion d'en reparler aussi, équipe entraînée par Safet Susic, légendaire attaquant yougoslave à l'époque, notamment du Paris Saint-Germain. Bruno, toi, ta vision un petit peu sur ces deux matchs-là, on a beaucoup fait de parallèles avec effectivement le France-Bulgarie de 93 qui avait un peu laissé des séquelles, où il nous fallait pas énormément de points, et puis on était un peu allé dans le mur, on en avait parlé lors du dernier podcast. Toi, ton avis un petit peu sur quel sentiment tu restes avec ces deux matchs ?
Moi, ce qui m'inquiétait avant le match d'hier soir, le match contre l'Albanie, victoire logique, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ce qui m'inquiétait avant le match contre la Bosnie, c'est que justement la Bosnie était assurée de la deuxième place dans le pire des cas, donc avait strictement rien à perdre et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était attaquer. De toute façon, le meilleur des choses qu'ils pouvaient avoir, c'était de nous battre et finir premier. Mais ceci dit, j'ai essayé de me souvenir depuis quand on s'était pas fait marcher dessus dans le premier quart d'heure comme hier soir. Ça remonte quand même un peu. En général, les débuts de match sont quand même assez tranquilles. Enfin, ça va pas très très vite, quoi. Et là, je reconnais que le début de match de la Bosnie a été vraiment remarquable. Et à 0-0 au bout d'un quart d'heure, je trouve qu'on s'en sortait pas mal. Bon, après, on s'est pris le but un peu plus tard, mais... On a été noyé complètement en première mi-temps et après il y a eu des changements du côté de la Bosnie qui étaient assez bizarres. Enfin, j'ai toujours pas compris pourquoi le gardien était sorti d'ailleurs. Je sais pas s'il y a eu une explication. Bon, le gardien remplaçant a fait le boulot quand même, hein, mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, on peut dire que c'est un résultat quand même relativement logique, mais on est passé quand même pas très loin d'une grosse déception et je sais pas dans quel état on aurait abordé les barrages si on avait perdu hier soir.
En l'occurrence, on aura peut-être l'occasion de reparler aussi du système tactique choisi, puisque Florent, je sais que ça t'a interpellé, mais On reste sur deux formations en 4-3-3. Théoriquement, on est censé apporter de la vitesse dans le jeu, et en tout cas un petit peu plus d'animation offensive. Ça a bien marché un coup et pas à l'autre. C'était un petit peu bizarre.
Non, c'est pas bizarre. Tu parlais de 4-3-3 face à la Bosnie.
Face à la Bosnie, voilà. On avait largement dominé match aller. Je parle du match aller contre la Bosnie en Bosnie, voilà, parce que c'était un petit peu l'épouvantail du groupe.
Ouais, non, mais c'était assez logique. Le match là-bas, c'était l'époque où Laurent Blanc parlait de jeu. Et il avait abordé le match en alignant 3 milieux, on va dire. À vocation a priori défensive, vu que Diaby était le seul qui était à l'époque connu pour traverser les lignes et faire des différences. Je rappelle que c'était un milieu Diarra Villa Diaby. Là, le projet était clair, c'était densifier le milieu, les mettre sous pression et les contrer. C'était évident. Là, sur ce match-là, quand on aligne un milieu sur ce match retour avec Kabay, Nasri et donc Nvila, qui était le seul rescapé du coup du milieu de terrain qui avait gagné au match aller. En tout cas, on veut penser qu'on va jouer au football, qu'on va essayer de résister. Le problème, c'est que les Bosniens avaient une organisation en 4-2-3-1 qui a posé énormément de problèmes aux Français, avec d'abord une ligne de 4 offensifs qui a énormément pressé justement dans le premier quart d'heure dont parlait Bruno, et ensuite une défense très lente, mais qui a su tenir et faire allusion pendant une bonne heure avant d'exploser à la fin, dès lors que les quatre attaquants étaient plus en mesure non plus de presser et d'attaquer. Donc c'est vrai que moi, quand Laurent Blanc aligne la compo hier, quand je découvre le 11 de départ et le milieu, alors que personnellement j'attendais le retour, par exemple, d'Alou Dira, vu qu'on nous en avait parlé toute la semaine quasiment, qu'il reviendrait sur ce match et que Laurent Blanc le réalignerait, quand j'ai découvert la compo, je me suis dit, j'espère qu'il sait ce qu'il fait, parce que à mes yeux, c'était extrêmement risqué face à la Bosnie et par rapport à ce que la Bosnie avait fait sur les dernières semaines, les derniers mois de la compétition. Et on voit qu'il n'est pas passé très loin de prendre une vraie leçon. Voilà.
Ok, c'est vrai que sur le sentiment général, c'est plutôt que qu'hier on était censé avoir effectivement un milieu joueur. Alors, je sais pas ce qu'en pense Raphaël. Par exemple, on était censé avoir un milieu joueur. Alors le milieu de terrain, Nvila, Diaby, Diarra, en vrai seul milieu défensif, il avait connu des fortunes diverses, mais globalement il semblait fonctionner. Maintenant c'est vrai que là, je pense qu'il a Blanc a peut-être voulu essayer de reconstituer quelque chose. Avec des automatismes plus ou moins aboutis. Hier, on s'est rendu compte que Mvila, c'était pas trop ça, quoi. Raphaël, sur les deux matchs, toi, ton sentiment ?
Ouais, ce qu'on peut déplorer, je pense, c'est que malgré la qualité des joueurs, on n'arrive pas à avoir des joueurs régulièrement bons, en fait. Moi, j'ai entendu dire que Nasri avait été génial contre l'Albanie. Malheureusement, je me suis endormi pendant le but de Malouda. Mon esprit a pas sûrement voulu voir ça, donc je sais pas. Et puis, contre la Bosnie, jusqu'à son but, à part un bon début de deuxième mi-temps à certains moments, il a été presque inexistant. Donc c'est dommage que malgré qu'on ait des joueurs, je dirais tous techniques, tous bons, capables de jouer, on n'arrive jamais à contrôler le jeu. Quel match on a réussi à contrôler depuis l'arrivée de Blanc? J'en vois pas vraiment. Donc
l'Angleterre qui jouait pas.
Ouais, voilà, l'Angleterre qui jouait pas.
Ouais, les matchs amicaux avec le Brésil à 10, etc.
Ouais, mais tu vois, il y avait toujours
même un handicap pour l'adversaire. Celui en Bosnie, c'est pour moi un bon exemple de match maîtrisé du bout en bout. Je n'ai pas le souvenir qu'on était particulièrement bousculé,
ouais,
grâce à une bonne assise du milieu de terrain notamment. Alors que là, personnellement, j'ai trouvé que Blanc avait fait le pari de la technique, alors que la Bosnie, au début de match, a accentué mis beaucoup d'impact dans les duels, a pris le dessus d'abord physiquement pour pouvoir ensuite dérouler son jeu techniquement. C'est vraiment, c'est d'abord dans l'agressivité que en début de match les Bleus se sont fait bouger, quoi. C'est là-dessus, après, à mon avis, que Blanc a perdu son pari, enfin, tactiquement, en tout cas en début de match, en tout cas dans le choix des hommes, quoi. C'est ce qui m'a paru assez flagrant en début de match.
Ouais, et déjà en septembre, avec Bruno et Vincent, on pointait une espèce de stagnation, voire de régression, après les matchs contre la Roumanie, et c'était déjà l'Albanie. Et que ça continue pour l'instant, on n'a pas vu de progrès depuis septembre. Il y a eu ce match face à l'Albanie, ce 3-0, un peu, je sais pas s'il est en trompe-l'œil ou pas, parce que j'ai vraiment vu très peu d'images, mais contre la Bosnie, c'était décevant. On se croyait revenu, je sais pas à quelle période, l'époque où la France n'avait aucune certitude. Et c'est dommage qu'en un an, Blanc n'ait pas réussi à fixer de joueurs au poste, de certitude, de manière de jouer, d'animation. J'ai l'impression qu'on tâtonne à nouveau à chaque match dans un nouveau système, de nouvelles idées. Donc,
je pense que de toute façon, faut tenir compte aussi effectivement des blessures, même si c'est pas la moitié de l'effectif qui est à l'infirmerie, mais il manque quand même pas tout à fait un joueur par ligne, mais enfin presque. Le fait est que c'est pas forcément simple de constituer après quelque chose de performant tout de suite comme ça. C'est vrai que c'est intéressant de constater qu'au match aller, on avait bien dominé la Bosnie. C'était justement plus ou moins ce qui, à mon avis, est dans l'esprit de Blanc, ce que tu disais, Florent, son équipe type, quoi, avec une ligne Mekses Rami derrière, Sagna et Clichy sur les côtés. Bon, après Clichy, on peut en discuter. Diarra, Mvila, Diaby au milieu. Et Valbuena, Malouda et Benzema en pointe. Ça ressemble quand même à ce qu'à mon avis, il a dans son esprit, c'est plutôt l'équipe type, quoi. Alors celle-là, on l'a pas forcément beaucoup vu.
Non, je pense pas personnellement que ce soit une équipe type. Ce match-là, il avait très bien préparé, parce que de toute façon, c'était un match qu'il ne fallait pas louper à l'époque. Je crois que la France venait de perdre face à la Bélgique. Il fallait vraiment pas se manquer. Et il avait décidé d'oublier sa communication, en fait, tout autour du jeu et des jeux de la technique, etc., pour être présent et mettre des joueurs présents sur le plan physique. Je pense pas que, au vu de la communication qu'ils tiennent, que ce soit son équipe type dans sa tête, surtout qu'il a des joueurs comme Nasri à placer quelque part à un moment donné.
Gourcuff aussi, quand il va revenir.
S'il revient un jour, hein, parce que bon, au niveau des blessures, il en a pas fini. Donc, personnellement, je pense pas que l'équipe de là-bas soit son équipe type, ou alors on a affaire à un sélectionneur qui s'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Je serais pas étonné non plus, mais voilà, c'est assez. Je serais étonné que ce soit l'équipe type qui ait gagné en Bosnie, et je pense qu'en Bosnie c'était plutôt un match très bien préparé et très réussi, comme l'a dit Julien, maîtrisé, etc. Et que depuis, c'est vrai qu'il tâtonne après. Il serait pas étonnant si, on en parlera à la fin, l'équipe de France tombe sur des gros morceaux lors du prochain Euro au premier tour. En effet, peut-être que cette équipe-là, ou une du même Akabi, Tel Aviv, du même registre.
C'était nul.
C'est-à-dire que si un France-Espagne, peut-être qu'on se retrouvera avec un milieu à 3 fait avant tout pour défendre. C'est possible.
Bah oui, ouais, forcément. Alors on va passer, messieurs, si. Si ça vous convient, on va passer peut-être sur quelque chose d'un petit peu plus précis, ligne par ligne, pour voir un petit peu sortir peut-être les satisfactions ou pas d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir aussi des choses qui sont vraiment pas buvables. Ligne par ligne, peut-être apprécier la performance des uns et des autres. Dans les buts, pour le faire rapidement, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Lloris est plutôt à sa place, qu'il a sorti en plus quelques arrêts pas forcément anodins. Notamment sur les derniers matchs.
Arrêter la frappe de Dzeko quand même.
Ouais.
Ça savoir surtout sur le risque, si c'est un bon capitaine, quoi. C'est plus là l'interrogation aujourd'hui sur lui, parce que bon, il est indiscutable, je pense, dans les buts. Est-ce que après c'est un leader? Est-ce que c'est au gardien d'être titulaire, surtout dans un match comme hier où on fait bouger dans le jeu, il est pas vraiment encore du jeu pour remotiver un peu les troupes.
Moi, je suis la question du capitaine est importante, parce que moi je pense qu'on n'a jamais résolu cette question-là. Blanc dit qu'il essaye un peu tout le monde, hein, quasiment.
Je pense que c'est une non-question, c'est pas sa priorité.
Ouais, mais
attends, on a raison, mais c'est pas sa priorité.
Il y a quand même un gros manque de leadership au niveau de sur le terrain, quoi. Il n'y a personne qui est capable de recadrer les joueurs, de réorganiser tactiquement l'équipe, de pousser une gueulante à un moment donné. Enfin, c'est complètement atomisé, quoi. C'est ça, en gros, c'est chacun sa mère, quoi. Et là, je trouve que ça manque effectivement. Je suis d'accord, Lloris, à mon avis, n'a pas le bon profil. D'abord, il est jeune, il n'a pas une très très grosse expérience à ce niveau-là. Il est gardien, donc il n'est pas très bien placé. Et puis
il a le jeu devant lui, par contre. Il peut parler, ne serait-ce qu'à sa ligne de défense.
À sa défense, oui, c'est vrai.
C'est ça, un gardien le fait naturellement, quoi. Pas besoin du brassard pour diriger sa défense. Il doit le faire naturellement. Et ce serait bien d'avoir un deuxième joueur capable de.
Ce serait bien de toute façon de fixer ce brassard et dire une bonne fois pour toutes. Bon, bah voilà. Après, ça n'a pas l'air d'être la démarche de Blanc. Bon, bah tant pis, mais après, on en tirera les conséquences ou pas, hein, effectivement. En termes de leadership, ça peut être important, quoi.
Ouais, a priori, c'était Diarra qui devait être fait, enfin, dans l'esprit de Blanc pour être le capitaine, mais bon, sur le terrain, il ne donne pas satisfaction, donc forcément, ça remet toujours la question sur le tapis.
Alors, la ligne de défense, on va surtout s'attarder peut-être sur la charnière. parce qu'il y a beaucoup de questions suite à la blessure de Mexès. Bon, finalement, on s'en sort pas trop mal sans lui. Je pense que ça reste, sur tous les défenseurs qui ont été essayés, ça reste le plus indiscutable. Mais bon, bah, fallait faire sans lui. Hier, on a vu un Rami, même contre l'Albanie, enfin, m'a pas paru transcendant, encore une fois. Hier, il fait une faute, une erreur de placement défensive, de présence sur le but de Dzeko, qui certes est un excellent attaquant, mais enfin, quand même, qui est quand même préjudiciable. À côté, il y avait Abidal, que Blanc a choisi de replacer finalement, alors qu'il n'est pas forcément au top de sa forme. C'était là aussi un pari sacrément risqué. Maintenant, les blessures font que il n'avait pas trop le choix, mais moi je pensais que peut-être on reverrait un Kaboul qui finalement contre l'Albanie lui avait pas été mauvais. C'est un peu en dents de scie, mais bon voilà. Donc je sais pas, Florent, ton sentiment, toi, ta charnière centrale idéale selon toi. On garde Mexès Rami?
Oui, enfin tout dépendra de. Du retour de Mexès et des premiers matchs qu'il fera, parce que pour le moment ça va être une inconnue, puisqu'il va devoir se relever s'il s'était fait les croisés, hein, si je me souviens bien.
Il va avoir de la concurrence au Milan AC, surtout.
Il va avoir de la concurrence, il va falloir qu'il regagne sa place, etc. Donc c'est vrai que, a priori, Mexès Rami, c'était la charnière qui avait donné le plus de certitude sur deux matchs uniquement, si mes souvenirs sont bons. Mais l'équipe de France n'avait pas pris de but, je crois, sur ces deux matchs-là. Donc c'est sûr que, à partir de là, on part sur cette charnière-là. Le problème, c'est d'un côté le retour de Mexès, comment ça va se passer, et de l'autre, l'évolution aussi d'Adil Rami, parce que autant à l'aller, dans une configuration à 1 contre 1, il avait bouffé Dzeko, et Dzeko n'avait pas vu le jour, autant hier, plus que simplement sur le but, il s'est fait manger à plusieurs reprises, et Dzeko, sur les longs ballons, dominait quand même la défense centrale française, dans les airs, et ensuite pour résister au duel au sol, etc., et jouer en pivot. Donc voilà, moi personnellement, Rami, c'est un joueur avec lequel j'ai toujours eu du mal, c'est le genre de joueur qui sort un petit peu de nulle part et qui arrive à monter très haut, puisque donc il a eu une carrière un parcours un peu chaotique avant d'arriver à Lille et de vraiment s'imposer au très haut niveau, et du coup il a un petit peu les j'appelle ça des trous d'air, mais des joueurs comme ça, à Bordeaux, on a un spécialiste du genre, hein, je ne nommerai pas.
Seulement un.
Yael Siani, on en a deux même. Mais c'est par exemple deux joueurs, je ne sais pas si c'est le cas de Rami, s'il a fait un centre de formation ou pas pro, est-ce que quelqu'un peut me le dire?
Non, il a pas fait, il me semble que non, il me semble qu'il était. En tout cas, quand Lille est allé le chercher, il était à Fréjus. Donc,
ouais, c'est ça.
Voilà, mais il me semble qu'il n'est jamais passé en centre de formation.
Voilà, et ça, alors, bon. Même si on ne peut pas le confirmer, si c'est le cas, il lui arrive de faire des erreurs, comme l'erreur qu'il fait hier contre Dzeko. C'est le genre de choses qu'on apprend généralement en centre de formation à des défenseurs qui passent par, on va dire, le parcours habituel, le parcours normal. Et ça, c'est des erreurs qu'on retrouve et qui sont récurrentes, plus ou moins, chez tous ces joueurs-là qui sortent un petit peu de nulle part et qui arrivent au très haut niveau. C'est la belle histoire, oui. Mais à côté, il y a des bases qui ne l'ont pas toujours et par moment, ça ressort au plus haut niveau. Après, Rami, il a pour lui sa fougue, sa présence physique quand même et son petit côté un peu, on va dire comme ça, un peu foufou, qui fait qu'il est apprécié, etc. Et que c'est un joueur qui est sympathique a priori à voir jouer. Mais il a toujours ce genre de trou d'air et c'est vrai que jusqu'ici, autant quand ça n'allait pas trop vite, ça allait, autant comme hier contre la Bosnie, ou sur un autre match, je crois, où il avait eu beaucoup de mal, je pense que c'était, vraiment, je ne sais plus en fait quand est-ce que c'était exactement, mais dès que ça commence à accélérer et qu'il n'a pas vraiment un adversaire direct avec, on va dire, du même gabarit, etc., avec lequel lutter, il a un peu plus de difficultés. Et c'est vrai qu'après, ce qui est important, c'est le profil qui lui est associé. C'est vrai qu'à ce niveau-là, Mexès est très complémentaire de par
ouais, je pense aussi, ouais. Bah, en tout cas, au niveau de la correction des erreurs et du placement, etc., on sent qu'il y a une complémentarité qui est intéressante. Ouais.
Ah, c'est ça. Après, est-ce qu'un joueur comme Kaboul, associé à Mexès, peut pas être tout aussi intéressant que Rami? Ça aussi, ça va peut-être se discuter lors des prochains matchs amicaux.
Voir Sako aussi, qui a
Sako,
je
ouais,
pense, pas totalement perdu de sa chance. Moi, j'ai pour moi, mais ça c'est mon sentiment, je pense que Koscielny hier aurait mérité quand même d'être testé du moins vu sur ce genre de match, peut-être plus contre l'Albanie à la rigueur, parce que c'est vrai que la Bosnie c'était le match couperet, mais je trouve un peu dommage qu'on ne lui ait pas donné sa chance. Bon, c'est vrai que là il est un peu short physiquement, il avait une petite blessure qui l'a gêné ces dernières semaines, donc bon, mais à mon avis il aurait sa chance dans un profil plus Mexès, et en attendant peut-être que Mexès revienne. Maintenant il y a pléthore de candidats, il faut faire un choix aussi, et c'est pas forcément simple. Bruno, ton avis toi sur cette question-là, cette défense centrale?
Ben Rami, ce sera peut-être intéressant de le voir en février contre l'Allemagne, si le match amical en Allemagne est maintenu, c'est-à-dire si on ne les tire pas au sort avant, ça on en parlera tout à l'heure. Donc là, il risque de se faire embouser quand même sérieusement. Oui, voilà. C'est sûr que c'est un petit peu inquiétant, parce que c'était un petit peu la clé de voûte de l'équipe de Laurent Blanc, de dire il nous faut une défense centrale qui soit solide, qui fasse pas d'erreur. Et bon, il y était arrivé, disons, jusqu'au mois de mars, hein, grosso modo, tant que Rami et Mexès jouaient tous les deux. Ouais. Là, ça s'est pas mal délité. Alors, en même temps, l'équipe prend quand même très peu de buts. Hein. On n'en marque pas beaucoup, mais heureusement, on en prend très peu. Donc, à la limite, il y a quand même pas trop de dégâts. Mais c'est pas rassurant de voir Rami s'affoler comme ça. Bon, Abidal s'était bien troué aussi en tout début de match, je sais pas si vous vous rappelez, mais à la 3e ou 4e minute, hein, il est dans la surface là, puis il se penche en avant pour dégager la tête, il rate complètement le ballon, en fait c'était assez bizarre. Donc c'est vrai que ce manque de sérénité derrière est quand même pas très rassurant, parce que le premier tour de l'Euro c'est quand même un niveau très relevé, hein, plus que le premier tour de la Coupe du Monde. Et voilà. Donc là, on n'a pas trop de garanties. Je trouve qu'on a plutôt reculé depuis 6 mois sur ce secteur-là.
Alors que c'était la priorité quand même de Laurent Blanc, on savait. Pour le reste de la défense, pas Raphaël, Julien, peut-être un avis sur la défense centrale.
Écoute, j'avais déjà exprimé mes doutes sur les latéraux sur le précédent podcast. Dans le précédent podcast, je crois que les doutes sont toujours là. Evra, c'est la définition du quelconque. Donc. Je comprends pas, il est. Enfin, je sais pas si vous arrivez à le trouver bon une fois par an, en fait.
Hier, ça n'a pas été son plus mauvais match. Enfin, voilà. J'aime pas spécialement Evra, ça n'a pas été son plus mauvais match.
Moi, ce qui me fatigue, c'est toutes ces montées, en fait, qui aboutissent toujours à 6 mètres pour l'adversaire. Ça m'est insupportable.
Des fois, il tente.
C'est une espèce de fatalité, en fait, dans les débordements d'Evra. Et puis, il n'est pas si rassurant ça défensivement, quoi. Je trouve que dès qu'il y a un bon adversaire, il se fait prendre. Combien de fois Pjanic sur le côté est venu un peu emmerder tout le monde, et Misimovic s'est amusé aussi.
Voilà. Alors, à l'opposé, à côté droit, j'ai trouvé Debuchy sur le premier match et a été bon. Alors, moi je sais que forcément on me rebalance à chaque fois l'exemple de Sagna avec des fortunes diverses là aussi. Moi je pense que c'est surtout Réveillère qui va pâtir de la concurrence de Debuchy plus que Sagna. Très sincèrement, hein, je mets de côté. Voilà, mais je pense que Debuchy hier, contre l'Albanie, a fait un match très très convaincant. Qui peut apporter beaucoup, notamment dans une concurrence avec Sagna pour le poste, ça c'est très clair. Mais je pense que celui qui va le plus en pâtir, ça reste Réveillère, surtout après son match hier, même s'il a marqué contre l'Albanie, je l'ai trouvé assez quelconque là pour le coup. Et encore une fois, pas vraiment au niveau de ce qu'on peut attendre d'un international sur ce genre de compétition, quoi. Donc il y avait le chantier de la défense centrale. Il y a du monde aussi pour les ailes, mais on ne sait pas trop.
Le problème, c'est que le chantier latéral, ça date de 2006. Quoi. C'est...
Ouais. Non, mais Abidal, pour moi, a sa place à gauche. Et oui. Je pense que là aussi, dans l'esprit de Blanc, c'est son titulaire indiscutable. À droite, à mon sens, c'est Sagna. Mais Debuchy peut-être gratter quand même un peu de terrain.
Le problème, c'est que juste Blanc, il ne peut pas vraiment installer une défense type, puisque. J'ai du mal à me rappeler de la dernière fois où ça a été deux fois la même défense d'affilée. Il y a souvent un blessé. Abidal a été blessé. Là, c'était Sagna, Mexès aussi. On en est à remettre le débat sur la table parce que il n'y a personne qui convainc, mais c'est parce qu'il n'y a pas non plus vraiment l'opportunité pour une défense type de quatre joueurs de faire leurs preuves sur plusieurs matchs consécutivement dans des bonnes conditions.
C'est titulaire, Sagna.
Oui, Sagna, oui, mais voilà, après, c'est des automatismes.
C'est plus à gauche, qu'il y avait un souci, et effectivement, Evra n'est pas revenu de façon convaincante. Enfin, il n'est pas largement au-dessus des autres.
Ah non.
Evra, c'est un numéro 2 derrière Abidal. Ouais. De toute façon, c'est.
Ouais, mais je pense que là aussi, comme pour Réveillère, avec les clients de
Bucci. Tant qu'à faire, pourquoi on ne se débarrasse pas d'Evra? Il est inutile, pourquoi on ne prend pas Jérémy Mathieu en numéro 2?
C'est pareil, je pense que aussi.
Evra, il est inutile, si Abidal est là, il ne jouera jamais, donc.
Clichy en troisième choix avait pas, enfin sur ses derniers matchs Clichy, les dernières apparitions n'a pas été trop mauvais, mais là aussi pas forcément pas suffisant pour être au-dessus d'un Abidal quoi.
Non mais de toute façon on pourra discuter sur vraiment discuter sur pourquoi il prend pas un tel, pourquoi enfin sur les hiérarchies quoi, tous les postes, et on va enchaîner après avec milieu et attaque, mais Laurent Blanc l'a dit je crois cette semaine en conférence de presse. On lui demandait pourquoi il prenait pas un tel et un tel, et il a dit « Je vais jusqu'au bout des qualifications avec le groupe que j'ai construit, et on verra, à partir des matchs amicaux, si les choses bougent. Si, peut-être que vous serez surpris de mes prochaines listes, en gros. »
Ce sera un peu tard aussi, quelques mois de l'Euro seulement, lancer comme ça dans le bain, des tests comme ça.
Ça rappelle un ancien sélectionneur, oui.
Ouais,
pas qu'un seul d'ailleurs, mais bon.
Mais voilà, après, peut-être que lui ne pouvait pas, et il ne pouvait pas de toute façon se permettre de louper une qualif en changeant ou en bouleversant son groupe à plusieurs reprises. Donc voilà, là on va rentrer dans une situation où, n'ayant pas de match de barrage, on va déjà avoir deux matchs amicaux supplémentaires par rapport à la précédente, on va dire, à la pré-grande compétition, donc qui était la Coupe du Monde 2010. Donc, il va y avoir deux matchs amicaux au mois de novembre, a priori, je crois, face à la Belgique et aux États-Unis. Donc, des adversaires pas non plus énormes, mais qui pourront être utiles pour se roder. Je pense que le match face à la Belgique sera d'ailleurs assez intéressant à suivre. Mais voilà, peut-être que dès ce match-là, on aura ceux qui n'ont pas été convaincants sur ces deux derniers matchs et qui n'ont pas été convaincants depuis plusieurs mois, peut-être qu'ils vont sortir. On verra. Pour le moment, je lui laisse encore le bénéfice du doute sur le mois qui arrive. Et peut-être qu'on aura des bonnes surprises avec certains retours ou certaines arrivées. Même
certains départs.
Certains départs.
Certains départs, ouais. Mais ça va avec les arrivées. Même si à part peut-être les milieux lillois, à part les joueurs qui n'ont jamais été convoqués sous Laurent Blanc et qui, à part si on s'appelle Pierre Ménès, et qui mériteraient de faire partie du groupe France, il n'y en a pas non plus énormément aujourd'hui.
Il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont déjà été convoqués et qui n'ont jamais joué.
Il y a aussi ça, oui. Les joueurs à voir et qu'on n'a toujours pas vu, en effet.
Alors, on va passer au milieu de terrain, parce que c'est le grand débat, en l'occurrence, un débat qu'on a eu à plusieurs reprises, Florent et moi-même, notamment concernant Mvila et son positionnement sur les derniers matchs. Hier on voit, alors effectivement, hier, blessure, pas blessure, Diarra, pourquoi pas Diarra, enfin, moi aussi j'étais comme toi, hein, Flo, j'étais un peu étonné de pas le voir hier en milieu def, mais enfin bon. Il y a cette histoire de positionnement. Alors, Nasri, on sait que le poste de meneur de jeu numéro 10, entre parenthèses, ça n'est que mon avis, mais pour moi Nasri n'est pas un meneur de jeu au sens propre du terme, ou en tout cas pas à l'heure actuelle là, et pas de la façon dont il joue en club.
Et pas de haut niveau tout simplement.
Ou peut-être pas de haut niveau, en tous les cas il n'a pas suffisamment encore la bouteille pour pouvoir l'être de façon performante comme on pourrait l'espérer. Voilà. Après ça aussi c'est mon avis pour l'avoir vu jouer très longtemps. En plus il ne joue pas à ce poste là en club, c'est très clair. Donc la question pour Blanc à mon sens a été réglée puisque Blanc l'avait dit là aussi. Donc il y a eu un peu des chicnaux entre les deux par presse interposée. Sur les deux matchs, Nasri a eu quand même un excellent comportement, je pense qu'on peut le dire. Après, bon voilà, mais hier, il y a le pénalty sur lui, il prend la balle, il frappe, il marque. Il faut quand même le faire aussi.
Il aurait pu éviter l'élan de Ventardise à la fin, là, quand il dit, comme d'habitude, je prends le péno.
Ouais, voilà, mais après, ça reste Nasri, c'est le côté un peu marseillais, voilà. C'est comme ça. Mais je pense que dans l'idée du meneur de jeu, c'est plutôt Gourcuff qui a les préférences de Blanc. Seulement Gourcuff, on sait qu'en ce moment, c'est pas
forcément disparu.
Voilà, il est porté disparu.
Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Gourcuff, hein, donc je sais pas s'il y a autant de certitude que ça sur Gourcuff à ce poste-là, quoi.
Je pense que dans l'esprit de Blanc, oui. Mais là aussi, je peux me tromper, hein. Mais par contre, là où je voudrais revenir, c'est sur ce positionnement d'Mvila, qui à mon sens est un des meilleurs joueurs, un des meilleurs milieux de terrain français actuellement. En même temps, vu ce qu'on a dans le championnat de France, c'est pas difficile. Mais c'est un des meilleurs milieux de terrain français.
Insultez pas Edouard Cissé.
Non, j'aime beaucoup des joueurs comme Matuidi justement qui a peut-être aussi
qui n'a jamais joué en équipe de France par exemple.
Qui a été appelé dans le groupe mais qui n'a jamais joué.
Il est rentré.
Il est rentré.
C'était contre qui déjà qui avait joué?
C'était peut-être en Roumanie, il me semble.
Je crois que c'était à domicile, non?
Ouais, non, enfin, peut-être contre la Roumanie, effectivement.
Oui, une mi-temps.
En l'occurrence, moi, pour moi, Mvila, tout le monde le voit en milieu défensif. Et à mon sens, le restreindre à un poste de milieu défensif, c'est pas le cas. Et on l'a vu hier, il faut qu'il joue avec un vrai milieu défensif à côté, derrière lui, pour être positionné un cran plus haut, pour pouvoir apporter, par une qualité de passe qu'il a, qualité de conservation de balle, de vision du jeu. C'est pas un numéro 10, mais c'est un, pour moi plus un relayeur qui peut apporter autre chose que de se coltiner uniquement des tâches défensives. Il peut le faire, seulement c'est un peu gâché. Et en plus, hier, quand il y a un gros pressing, bah, il est vite débordé, quoi.
C'est là qu'on diverge. Pour moi,
je suis pas d'accord non plus.
Bon, ben, vas-y, je te laisse.
D'accord. En fait, pour moi, ça dépend surtout de l'adversaire qui est en face. Parce que, par exemple, contre l'Albanie, c'était un choix judicieux de mettre Mvila en poste de milieu défensif parce que justement, on a envie d'avoir le ballon. On s'attend à avoir le ballon. On a envie d'avoir un milieu de terrain qui peut récupérer, mais aussi qui est capable de faire des passes vers l'avant. Par contre, c'est vrai que là, contre la Bosnie, il aurait peut-être fallu un milieu peut-être plus défensif pur, oui. Consacré exclusivement à ça. Mvila n'est pas totalement, c'est vrai.
C'est le but de mon propos, parce que contre l'Albanie, il marque un but. Alors, Florent, je sais, pense que la défense albanaise était un peu plus qu'aux fraises, donc ça l'a pas empêché de se positionner, de se trimballer tranquillement à l'entrée de la surface. N'empêche que, de par lui-même, et j'allais dire, pas inconsciemment, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais il s'est projeté vers l'avant, son positionnement, naturellement, l'a amené là où il s'est retrouvé, sur la passe de Benzema, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Donc, voilà.
Non, mais Mvila, pour moi, finition du Mvila, c'est un milieu défensif au sens où il n'a pas le coffre pour tenir seul, face à une grosse équipe, j'entends, ou pour tenir seul le milieu de terrain et laisser les autres. Pour moi, il doit être soutenu par, dans un milieu à trois, comme le milieu à trois d'hier soir, il doit être soutenu par deux milieux de terrain, pas forcément plus défensifs que lui, mais qui sont efficaces dans le travail et le repli défensif. C'est-à-dire que pour moi, face à la Bosnie hier, si, là on rentre dans du foot fiction, mais un joueur comme Abou Diaby, un joueur comme Johan Gourcuff,
comme Clément Chantaine,
Diaby, pour moi c'est un milieu extrêmement complémentaire sur le tableau, évidemment, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de le voir sur un terrain. Mais par exemple ça, en imaginant les trois joueurs à 100%, je trouverais ça intéressant de le voir. Après, pour l'exemple que tu donnes sur l'Albanie, tu dis oui, c'est un milieu qui peut se projeter, donc il n'est pas forcément que défensif. C'est le genre de projection, la projection qui fait face à l'Albanie. C'est plus la projection d'un joueur intelligent qui arrive à sentir les coups que d'un joueur qui monte parce qu'il est plus relayeur que défensif. Si et là, on rentre dans d'autres considérations, à d'autres échelles, mais un joueur comme Piqué à Barcelone, s'il a la même action qui se présente face à lui, s'il se retrouve dans la même situation, il va faire la même course. Pourtant, il est défenseur central, et tout le monde sait qu'il est défenseur central. Personne ne le fera jouer plus haut, même si, à mon avis, il pourrait jouer plus haut. Mais c'est le côté « je peux dépasser ma fonction ». Et c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs qui sont capables, qui entendent peut-être un rôle plus défensif, mais qui sont capables, quand ils voient ce qui se passe sur le terrain, d'aller chercher plus haut et de faire tout simplement la différence. Et c'est en ça que Mvila, moi, j'aime bien, parce que pour moi, c'est un joueur qui doit jouer plus bas pour avoir plus de latitude et pouvoir faire ses passes qui font très mal, qui cassent les lignes, etc. À la manière, là aussi, on va chercher au niveau de la référence actuelle dans Busquets. Mais c'est aussi un joueur intelligent parce qu'il est capable de se projeter et d'apporter un plus offensif. Mais pour moi, tout simplement, c'est un joueur qui doit être encadré de milieu de terrain qui savent aussi défendre. Mmh. Et hier, même c'est si Capaille sait défendre, a montré qu'il savait défendre avec Lille et le montre avec Newcastle depuis le début de la saison, hier il était un peu à côté de la plaque quand même, faut le reconnaître.
Il a fait une bonne première mi-temps, après il s'est éteint, je pense qu'il a payé aussi à la fois, il avait pris un sacré choc au match contre l'Albanie, je pense qu'il était peut-être pas tout à fait revenu et je pense qu'il a pêché physiquement, on peut pas lui en vouloir non plus. Moi je l'ai pas trouvé totalement à côté de la plaque sur sa première mi-temps en tout cas.
Je l'ai trouvé très discret tant défensivement qu'offensivement. Je trouvais justement Mvila très seul, parce qu'à côté aussi, Nasri n'a pas non plus su peser défensivement comme peuvent le faire d'autres récupérateurs ou d'autres layers avec l'équipe de France. Voilà.
Sur les milieux de terrain, messieurs, Bruno peut-être ?
Alors, juste pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur Matuidi, il a quand même 4 sélections, il a joué 2 fois titulaire contre la Croatie et l'Ukraine. Bon, il ne s'est peut-être pas distingué particulièrement au point qu'il est... qui nous est frappé à ce moment-là, mais je pense qu'effectivement il peut revenir et il a peut-être un rôle à jouer derrière Mvila.
Il en a le potentiel. En fait.
Voilà. Je suis assez d'accord sur le fait que Mvila il peut avoir un rôle de relayeur, donc on jouait un petit peu plus haut, je dirais un peu dans le rôle de Tigana dans les années 80, mais Tigana il a été très bon quand il avait aussi Fernandez derrière lui et pas quelqu'un de plutôt offensif comme Genghini, donc on pourrait retrouver un petit peu cette configuration là voilà pour les milieux défensifs, mais après il n'y a pas pléthore aussi de joueurs capables de jouer en numéro 6 non plus.
Là, c'est ça, ouais.
C'est pas simple. Voilà, donc Diaby, on le voit quand même pas beaucoup, hein. Il joue une fois tous les 6 mois. Donc,
il joue à peu près une fois tous les 6 mois, Diaby. Il doit revenir là, théoriquement revenir ce week-end, à suivre.
Donc voilà, il n'y a pas énormément de solutions disponibles dans ce secteur-là non plus.
On a déjà eu ce débat la dernière fois, Vincent, et je t'avais déjà répondu que plus qu'une question de positionnement, je pense que dans le schéma que veut mettre Blanc, c'est-à-dire 3 milieux avec un 6 et devant lui 2... meilleur relayeur capable de créer aussi, je pense que même Villa c'est simplement le meilleur 6 français en fait.
Donc, pour moi il tombe plus vers le 8 en fait. Plus vers le 8 que vers le 6 pur et dur.
Même si le 8 c'était son positionnement naturel et le 6 a un positionnement secondaire, je pense que même là il serait le meilleur en 6 en français.
Mais hier clairement le boulot de 6 il peut pas le faire quoi. Alors il est peut-être pas aidé, certes, c'est une chose.
Non, mais d'accord, mais tu mets qui à la place si tu veux jouer comme Blanc veut le faire?
Je pense que si tu mets Diarra tout seul en 6 et avec Kabay et Nasri devant, c'est peut-être pas la même chose. Après il y a des
derniers matchs de Diarra.
Ou peut-être Mavouba par exemple, mais pas Mvila. C'est tout, c'est ça qui me choque dans ce positionnement, c'est que non, Mvila, c'est pas possible de le laisser tout seul faire ce boulot-là. Et c'est pas la première fois en plus qu'on le voit. Je me souviens du premier match au Stade de France de cette campagne-là, où c'est à peu près la même configuration, si ma mémoire est bonne, avec Diaby à la place de Kabay, si je dis pas de bêtises. Donc, Nasri n'est peut-être pas là. Mais en l'occurrence, c'est Mvila qui est tout seul en milieu récupérateur, et c'est aussi... Plus que moyen, quoi.
Ça peut paraître imprudent, moi je trouve ça ambitieux de la part de Blanc, donc je suis content plutôt.
Alors, peut-être un mot.
Je reviens toujours, tout dépend de l'adversaire, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça dépend.
Je suis assez d'accord, non, mais je te rejoins là-dessus, effectivement, tout dépend de l'adversaire. Mais si t'as un adversaire qui t'oppose un vrai duel physique de pressing au milieu du terrain, le mettre en 6 tout seul, pour moi, c'est pas bon. Contre un adversaire qui te laisse jouer, bah oui, pourquoi pas, mais pas contre un adversaire qui nécessite que tu blindes un peu ton milieu de terrain. Peut-être un mot rapidement sur la révélation, parce que c'est le mec dont tout le monde a parlé, le joueur qui a entre guillemets explosé. On va attendre un petit peu aussi de voir ce qu'il peut faire. Je pense qu'il fera partie du groupe qui ira à l'Euro. C'est Marvin Martin, tout le monde attendait, oui et non. C'est le meilleur passeur du dernier championnat de France, c'est pas rien non plus. Maintenant, il a 23 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a un moment de sa carrière où c'est peut-être normal aussi d'arriver à maturité, de faire quelque chose de pas mal. Il peut apporter, en tout cas hier il a apporté.
Vraiment apporté.
Oui, mais ça peut être un complément intéressant justement dans le cadre d'un milieu de terrain plus joueur ou qui peut garder le ballon.
Tout à l'heure quand j'ai cité mon milieu imaginaire là, avec Mvila, Gourcuff, Diaby, Martin collerait parfaitement aussi par exemple aux côtés de Diaby à la place de Gourcuff. Parce que c'est quand même un joueur qui travaille défensivement, puisqu'à Sochaux, il était obligé de le faire, puisque Sochaux jouait, on va dire, son schéma de jeu habituel, vu l'entraîneur des Girondins, maintenant, j'ai dû me pencher dessus. C'était Anin seul devant la défense, et puis Martin, Boudebouze et Maurice Bellet qui tournaient donc à 3, avec Martin dans l'axe, Boudebouze à droite, et Maurice Bellet à gauche, derrière 2 attaquants, avec Ka et Idey, la saison dernière. Ce qui fait que Martin, il était quand même obligé de pas mal travailler défensivement dans le repli, dans le pressing, etc. Et donc, pour moi, c'est un joueur qui peut parfaitement coller à l'esprit du 8 aux côtés de Mvila, le 8 bosseur qui fait le lien, etc. Alors, le 8, soit dans un milieu à 3, soit dans un milieu à 2, même si là, il faut quand même être assez certain que l'adversaire soit légèrement inférieur pour pas risquer de se faire prendre, puisque... un milieu à deux, Mvila Martin, ça peut être léger physiquement face à certaines équipes, je pense, même si les deux ont du répondant quand même. Et voilà, c'est Martin, oui, pour moi, c'est un joueur qui, je parlais des matchs amicaux tout à l'heure, au vu de ce qu'il montre sur ses entrées en bleu, il peut tout à fait s'imposer dans le 11 de départ sur les prochains matchs amicaux. Ça, j'en serais pas surpris.
J'apporterais juste une petite nuance pour dire, enfin, sur les deux, il a fait deux bonnes entrées intéressantes pour paraphraser CJP, face à l'Albanie et à la Bosnie, mais disons que.
On ne paraphrase pas CJP ici, c'est interdit. Hein, ça, c'est...
Ah, désolé, alors je n'étais pas au courant de.
Prononce
pas
ce nom, Raphaël.
On ne le paraphrase pas, on le prêche.
Voilà, on prêche. Vas-y, Julien.
Donc voilà, donc, il fait deux entrées plutôt intéressantes, mais par contre, il a quand même profité d'une baisse physique des milieux de terrain adverses qui lui ont permis d'avoir plus de liberté pour assurer son jeu de passe. Je demande à voir, voir dans une situation un peu comme Cabaye en début de match, pressé, obligé de jouer en une touche rapidement, un peu à l'emporte-pièce. Je ne sais pas si... il n'a pas encore vraiment été mis dans cette configuration-là. Quoi.
C'est vrai.
Ça peut l'inciter peut-être à... soit à faire des erreurs, soit à faire un meilleur match. Bon, c'est son meilleur match, c'est quand il met ses deux buts, c'est...
J'ai mis cal, donc après on peut prendre
son nom. C'était contre l'Ukraine.
L'Ukraine, oui. Ouais. Mm-hmm.
Bon, c'est vrai, c'était un match amical, pas forcément très violent, mais enfin, faut quand même, il y a des joueurs qui étaient attendus et qu'on fait de la merde pour parler clairement sur des matchs amicaux, alors que là, bon, bah, il a fait son boulot. Moi, ce que j'apprécie, c'est que, enfin, il n'y a pas énormément de joueurs qui ont une qualité de frappe comme la sienne. J'ai l'impression. Enfin, moi, c'est le sentiment qu'il me donne. Il a vraiment une très bonne frappe de loin. Hier encore, il met un coup franc qui paraît comme ça anodin, mais qui nécessite que Begovic s'emploie quand même à ras du sol, un truc un peu vicelard. Je pense que ça peut être un complément aussi intéressant dans ce domaine-là. En tous les cas, quelqu'un qui va être capable de déclencher des frappes de loin qui partiront ailleurs que 45 mètres au-dessus de la barre, n'est-ce pas, Adil, dédicace. C'est ça aussi, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en foot moderne, finalement.
Si il pouvait prendre la responsabilité de tirer les corners aussi, moi, ce serait assez content. Parce que Nasri, hier, en a mis deux coup sur coup au même endroit sur le gardien.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment un gros problème, quoi. Je trouve qu'on...
C'était pour endormir Spage, Bruno. T'as pas...
ouais. Non, alors pour c'est pareil, pour l'avoir souvent vu frapper, Nasri, c'est à mon sens un très très bon frappeur de
coup de pied arrêté. Son coup franc était pas mal quand même.
Son coup franc était bien. Ouais. C'est un très très bon frappeur de coup de pied arrêté. Quand il était à Arsenal, moi, je préférais largement que ce soit lui qui les frappe que Fabregas. Mm-hmm. Voilà, c'était la partie.
Mais merci, Monsieur Tribune.
Non, parce que Van Persie, ça dépend de quel côté tu le frappes, mais côté droit, Van Persie avec son pied gauche, théoriquement, le souci c'est d'avoir la cible qui va bien, c'est de l'avoir travaillé, ces phases-là, elles se travaillent à l'entraînement, il faut être quand même bien coordonné, et peut-être que c'est ça aussi qui pêche. Mais après, oui, ça peut être intéressant de varier les frappeurs, de toute façon, ça, c'est pas négatif, quoi. On va passer peut-être à la ligne d'attaque, parce qu'il y a des choses à dire aussi dessus. Benzema était absent sur ces deux matchs-là. Contre l'Albanie, on en colle 3. Hier, on en met 1 sur penalty. Mais enfin, on va peut-être s'attarder plus sur le match de l'Albanie parce que dans le domaine offensif, c'est celui qui a le mieux fonctionné. Est-ce que Benzema est vraiment indispensable en attaque, ou est-ce que c'est une question que je me pose, donc je vous la pose, ou est-ce que le fait de se focaliser sur lui empêche peut-être des joueurs comme Gamero, par exemple, d'avoir un petit peu plus leur chance, trouver un petit peu plus et peut-être d'apporter un petit peu plus dans cette équipe, Florent?
Non, pour moi, je vais aller très vite. Benzema est au-dessus du lot. Quoi qu'il arrive, après, il faut se poser la question de qu'est-ce que ça donnerait s'il était associé, par exemple, à Gamero en attaque, et revoir un 4-4-2 comme avec la même base d'animation que l'Albanie, mais avec Benzema Gamero devant. Là, je dis pourquoi pas, oui. C'est quelque chose à tester. Mais dans une situation avec un seul attaquant de pointe, Benzema est devant, puisque de toute façon, sous le maillot de l'équipe de France, durant toutes les qualifications, il a toujours quasiment donné satisfaction. Donc je ne vois pas pourquoi il sortirait ou il serait mis en concurrence. Mais c'est vrai que le voir associé à Gamero ou à Rémy ou à un autre, ça ne peut qu'être intéressant en vue de l'Euro, ne serait-ce que pour travailler d'autres configurations de jeu. Répondre selon ce qui se passe en match, par exemple. Voilà.
Bruno ?
Oui, je suis d'accord avec Florent. Moi, je pense effectivement que Benzema, en titulaire, il est indiscutable, mais pas tout seul. Voilà. Moi, je peste un peu de le voir jouer en pointe tout seul, certains matchs où il a très peu de ballons. C'est un petit peu difficile pour lui. Alors qu'avec un appui à côté, ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai bien aimé quand même ce qu'a fait Gomis contre l'Albanie. Bon, même s'il a été un peu maladroit en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, il s'est appliqué à jouer en relais, à servir de pivot comme il le fait assez bien. J'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi il était en tribune contre la Bosnie. Ça, j'avoue que c'est un peu.
Peut-être une demande de son club pour pas trop le tirer sur la machine, je pense.
Ouais, mais bon, après, ouais, sans doute. Mais voilà, Gamero a été quand même pas mal hier soir sur le peu de temps qu'il a joué. Moi, j'aurais même aimé le voir rentrer à la mi-temps plutôt. Voilà, bon, je pense quand même qu'il y a une hiérarchie assez claire avec Benzema devant, mais le schéma avec deux attaquants, effectivement, on peut espérer que sur les 6 ou 7 matchs amicaux qu'on va jouer d'ici l'Euro, la formule sera essayée. On verra bien si ça marche.
Et juste avant de laisser Raphaël et Julien, petit truc sur Benzema. Bruno parlait de Gomis qu'il a bien aimé. Petite formation qui pourrait régler le problème à gauche, c'est d'imaginer Gomis en pointe, en imaginant qu'il grimpe dans la hiérarchie des attaquants et qui, grâce à une grosse saison d'ici l'Euro, c'est de voir Gomis en pointe et Benzema à gauche.
Oui, sachant que Benzema a tendance à une forte tendance à décrocher assez facilement à gauche,
Une
à aller
tendance
se perdre à gauche.
à gauche et
Ça permettra à Blanc de garder son 4-3-3, quoi.
a surtout permis à une époque à Lyon, c'était l'époque Perrin, où
Avec
Benzema
Fred,
jouait à gauche
ouais.
en pointe, et c'était l'équipe la plus dangereuse à l'époque à Lyon. C'était largement la meilleure équipe. Et voilà, donc c'est une solution comme une autre. Après, il faut que Gomis se mette au niveau et qu'il arrive à bousculer la hiérarchie. Et on a vu qu'avec Laurent Blanc cette saison, avec Laurent Blanc depuis qu'il a pris l'équipe, c'est assez compliqué de bousculer la hiérarchie. Mais voilà, c'est une solution comme une autre. Ça vaut pas, peut-être pas mieux que Benzema Gamero à tester, mais voilà, ça peut être une idée. Au moins, ça réglerait les problèmes à gauche, puisqu'ils sont deux à se disputer la place.
Il serait trois, comme ça au moins c'est fait. Raphaël, ton avis, toi?
Mais je pense aussi que Benzema est indispensable parce que contrairement à beaucoup de joueurs de ce groupe, il a prouvé qu'au haut niveau, il était aussi fort qu'au petit niveau, j'ai envie de dire, qu'en Ligue 1. Parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont prouvé, bah comme Marvin Martin par exemple, qui ont prouvé qu'en Ligue 1, ça passait très bien. On attend encore de les voir jouer en Ligue des Champions ou face à des grandes équipes alors que Benzema a déjà montré qu'il avait le niveau. Donc je pense qu'à un moment, il faudra pas forcément construire autour de lui, mais en faire le référent d'attaque, vraiment. Et c'est pour ça que l'exemple de Flo, j'allais l'utiliser avec Fred. On se souvient de la période où. C'est la saison où il marque 20 buts, d'ailleurs, Benzema, je pense. On se souvient de l'action. Je me souviens surtout de l'action où il part de la gauche contre Lens et il fait talonnade, petit pont. Puis après, il finit par marquer un but sublime. Et c'est vrai que de ce côté gauche, il pourrait partir et ça permettrait d'ouvrir la porte à quelqu'un dans l'axe de plus buteur, de plus profondeur, que ce soit Rémy, par exemple, ou Gamero, ou même Gomis pour s'appuyer. Donc pourquoi pas, ouais.
À voir. Enfin, moi, juste avant de passer la parole à Julien, moi, mon sentiment, c'est que entre le Benzema de Lyon et le Benzema qu'on a aujourd'hui, je pense que le Benzema qu'on a aujourd'hui n'a pas encore atteint le niveau qu'il avait à Lyon. C'est-à-dire, il n'est pas capable de reproduire les mêmes performances. Donc après,
moi, je pense qu'il a progressé dans le,
il a
dans
progressé. Enfin,
son,
quand
dans
tu dis qu'il est bon
son
en Ligue des
périmètre d'action,
Champions,
tu vois, dans son aire de, comment dire, d'influence.
ouais,
Alors qu'à Lyon, il était vraiment
Mais pas, à mon
buteur,
sens, pas suffisamment
perforateur.
pour être un titulaire indiscutable. Mais ça, après, bon, ça
Ouais.
aussi, c'est mon avis. Mais voilà, la saison dernière, au Real de Madrid, il brille beaucoup contre des équipes pas forcément très très bien classées en Espagne.
Ouais, il
En
joue
Ligue
pas
des
parfois.
Champions, en
Il
Ligue
joue
des
pas
Champions,
parfois.
oui, il n'a pas joué à la double confrontation et quasiment pas joué, d'ailleurs, contre le
Il
Barça.
marque contre Valence, il marque contre Séville. Il n'y a pas tant de grandes équipes que ça en Espagne, c'est le problème.
Ouais, mais bon, après, la majeure partie de ces chapelets de buts, c'est contre de la petite équipe, quoi. Donc, moi, je veux bien. Moi, je pense qu'en équipe de France, on mériterait, un Gamero mériterait qu'on lui accorde un petit peu plus de temps de jeu. Et peut-être que se conserver un Benzema en joker sur certains matchs, ça lui ferait déjà peut-être du bien, lui, de se dire, ouais, voilà, de se concentrer, d'arriver vraiment motivé sur un match en disant voilà, je vais pas être titulaire mais je vais tout prouver derrière, parce que c'est souvent dans ces configurations-là qu'il est le meilleur. C'est-à-dire que quand il n'est pas en train de s'endormir sur ses lauriers et qu'il se sent concerné tout de suite, on le sent beaucoup plus actif dans le jeu.
Je pense
Moi,
qu'il a passé ce palier aussi.
c'est là où justement je suis pas sûr, mais bon, voilà, enfin bref, c'est mon avis. Moi, je suis pas un pro Benzema, je l'avoue. Je suis pas mécontent qu'il soit en équipe de France, mais le mettre en titulaire indiscutable, je suis pas certain que ce soit quelque chose d'intéressant pour l'équipe de France, quoi. Voilà, Julien, peut-être ton avis sur la question quand même.
Ouais, bah, je suis pas trop d'accord avec toi, Vincent, en fait, sur le cas Benzema. Parce que pour moi, justement, c'est le fait que Blanc lui ait fait confiance dans sa période difficile, qu'il l'a permis de se relancer d'abord en équipe de France et puis après avec le Real. Et il a quand même montré, enfin, pendant ses qualifications, qu'il était c'était lui, quoi. C'était l'attaquant numéro un. C'est lui je l'ai jamais trouvé décevant alors qu'il a parfois été très seul devant. Et pour moi, enfin moi, clairement, je voudrais qu'on construise l'attaque autour de lui, c'est-à-dire qu'on prenne en considération ses mouvements, ses déplacements pour choisir en fait les joueurs qui l'épauleraient sur les côtés. Je pense par exemple, on parle de sa tendance enfin si on part du principe qu'on l'alignerait en pointe, ses déplacements côté gauche pourraient être compensés par un Rémy donc depuis le côté
Qui
droit
s'est
qui s'est
passé
repris
contre
très dans
Chili
l'axe.
d'ailleurs, hein. Contre Chili, c'était ça.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est voilà, trouver des joueurs complémentaires avec Benzema parce que pour moi c'est notre meilleure garantie offensive pour le moment. Voilà, c'est pour moi il est un titulaire indiscutable, clairement.
Alors oui, justement, peut-être dans l'animation sur les côtés, Florent a abordé le sujet qui fâche un peu tout le monde. À commencer par le sélectionneur, je pense. Enfin, c'est un peu le dilemme national. Je comprends pas qu'on tranche pas un peu plus dans le vif à ce niveau-là. C'est le côté gauche notamment entre Malouda et Ribéry. Quand on voit le décalage de performance de Ribéry entre le Bayern de Munich et l'équipe de France, je vois pas où se situe le problème de lui expliquer qu'il faut qu'il joue peut-être ailleurs. Notamment quand il y a des permutations qui se retrouvent à droite et qu'il a des actions assez intéressantes. Peut-être lui remontrer la vidéo et lui dire: regarde, là tu vois, t'étais à droite et finalement t'as pas été si mauvais que ça. Malouda, on l'a dit tout à l'heure, reste sur peut-être là ses deux meilleurs matchs. Moi je garderais peut-être même que celui de la Bosnie, son meilleur match en bleu depuis une éternité.
Depuis la Bosnie l'an dernier.
Ouais, et oui, effectivement. Donc c'est plutôt inconstant. Maintenant, ça reste un joueur précieux quand il est en forme. Le problème à droite, c'est peut-être pas le même parce que là, ça fait un petit peu plus tourner. On a vu pas mal Valbuena, forcément. Rémy, qui semble donner quand même satisfaction, d'autant qu'il est assez complet, même si il n'a pas apporté hier tout ce qu'il aurait pu apporter, notamment sur son action 1 contre 1. C'est un peu dommage de se louper. Et qu'il a semblé complémentaire en plus avec Benzema. Donc Aimé Ménez, on va pas oublier Ménez, effectivement, qui a fait la quasi-totalité de la campagne lui aussi, et qui avait pas fait une mauvaise entrée sur les quelques matchs qu'il a pu proposer, quoi.
Toujours été bon.
Qui hier a fait quand même clairement très mal à la défense bosnienne.
Peut-être encore un tout petit peu trop individuel.
Ouais,
peut-être. C'est un peu son péché mignon.
On a enfin, c'est le problème de l'équipe de France aussi.
On a une équipe tellement lente que quand Ménès court, je suis content, quoi.
Oui, certes, mais hier, il y a une action en deuxième mi-temps où il est à l'angle de la surface, il avance, il la pousse une fois de plus alors qu'il peut soit frapper, soit peut-être remettre en retrait. Il y a du monde devant lui, il a des partenaires de dispo, et il préfère continuer à faire à pousser sa balle encore une fois et aller s'enfoncer, s'empaler contre la défense alors qu'il a mille autres choses à faire, quoi. Donc c'est ça le problème. Il veut être...
Oui, il le conduit bien son ballon.
Moi, je suis convaincu que si Ménès se réveille pas en deuxième période, on va en barrage. Hein, donc.
Il a apporté, je dis pas qu'il a rien
fait. Il a réveillé tout le monde autour de lui en courant partout. Donc je comprends.
Sauf que des fois, il se prend un peu trop pour le Messi.
Par rapport aux autres joueurs sur le terrain hier, c'était, je sais pas, j'avais l'impression de différence de vitesse, quoi.
Au final,
on découvrait le train, on découvrait l'avion, quoi.
Au final, il pousse pas mal, mais il marque pas de but, il fait pas de passe, quoi. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il a apporté. Il a apporté, mais pas comme il aurait pu apporter s'il donne une passe décisive sur sa conduite de balle à l'angle de la surface dans la deuxième mi-temps. Là, ouais, c'est classe. Sauf qu'il préfère gâcher un truc comme ça. C'est ça qui est dommage. C'est son péché mignon. Sinon, c'est un balle au pied, c'est un joueur magnifique. Il n'y a rien à dire.
Et il a été bon côté gauche, bizarrement, alors que, sauf erreur, il joue quand même plutôt à droite. Et c'est quand Malouda est sorti, donc qu'il a permuté, qu'il est passé à gauche, qu'il a été nettement plus incisif et plus décisif, même s'il n'a pas apporté d'action de but, qu'en première mi-temps où il était à droite et bon, où il n'a pas fait grand-chose, quoi.
Ouais, mais...
Moi, je pense que c'est un bon joueur. Après, est-ce qu'il a le niveau pour être titulaire ou est-ce qu'il faut se le garder comme remplaçant, le faire entrer plutôt en deuxième mi-temps sur des périodes plus courtes, je sais pas. Mais je pense qu'il peut apporter quelque chose et techniquement, je pense qu'il est quand même meilleur que Valbuena, par exemple.
Ouais. Julien, peut-être ton avis là-dessus?
Ménez, son principal défaut, enfin, outre son individualisme, c'est son manque de régularité. Bon, le match, je veux dire, il illustre bien. En première mi-temps, il est totalement absent. Il dézone parfois dans l'axe en abandonnant, en abandonnant son côté. Heureusement, c'est vrai qu'il était là en deuxième mi-temps pour faire la différence, en profitant notamment de la fatigue des milieux de terrain adverses. Il avait un peu plus d'espace. Mais voilà, c'est toujours un peu le même problème avec lui. Il n'est pas assez régulier. Et c'est vraiment là-dessus que je m'interroge, en fait, sur son avenir. Enfin, au plus haut niveau, quoi. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner vraiment les prestations de premier plan sur plusieurs matchs, sur un euro par exemple? Est-ce qu'il est capable de porter le flanc droit à l'euro? J'en doute un peu. Voilà.
Okay. Messieurs, autre chose? Florent, peut-être?
Non, mais sur Menez, j'en parlais tout à l'heure parce que c'est un joueur qui a fait plaisir hier soir quand même, même s'il n'a pas été décisif. Ses courses répétées, parce qu'en première, même si on ne l'a pas beaucoup vu, il en a fait quelques-unes pour faire
courir. Il a fait pas mal d'allers-retours, c'est vrai.
Etc. Ça a forcément à un moment donné pesé dans les jambes des Bosniens, c'est assez évident. Donc voilà, c'est un joueur intéressant à ce niveau-là. Après, c'est sûr que c'est un postulant supplémentaire pour un des postes en soutien de l'attaquant ou sur les ailes, ça dépend comment on le voit. C'est clairement pas un titulaire en puissance à l'heure actuelle, ça c'est certain. Mais voilà, pour le moment, grâce à mon avis, s'il faut sortir un joueur sur le côté droit, imaginer une équipe en perspective de l'Euro, à mon avis, c'est Rémi qui s'en sort le mieux parce que il fait le travail défensif et parce qu'il a cette complémentarité avec Benzema qui va à gauche et Rémi va dans l'axe. Pour le moment, c'est lui, à mon avis, qui tiendrait la corde à droite dans l'esprit de Laurent Blanc, où c'est celui qui a montré en tout cas le plus d'automatisme et d'efficacité dans ce couloir-là. Après, à gauche, s'il faut faire un choix, pour moi, je me porte sur Malouda parce que je suis le joueur le plus expérimenté.
Et là, on a perdu Raphaël.
Et surtout parce que Ribéry est un joueur qui, depuis son côté gauche, a mis, et ça tease un peu parce que ça sera peut-être l'objet d'un article dans pas longtemps, c'est un joueur qui a derrière lui un Philippe Lahm côté gauche qui est toujours très très haut et dans sa zone pour lui permettre d'attirer, pour créer une piste en gros et attirer l'adversaire direct à la base de Ribéry dans cette zone-là et permettre à Ribéry de partir ailleurs. Et ça, le problème, c'est qu'avec... ça nécessite une vraie entente entre les deux joueurs, donc Lahm Ribéry, une entente technique aussi. Il faut que les joueurs soient bons dans des petits périmètres, puisqu'ils doivent des fois échanger, faire des passes rapidement avant que Ribéry puisse se démarrer. Et ça, je ne l'imagine pas le faire avec Evra, et j'imagine encore moins le faire avec le titulaire à gauche des Bleus, qui est Abidal, puisque Abidal, c'est un joueur qui reste plutôt en retrait, ne manque que quand le couloir est ouvert, à l'inverse de Lahm. Qui monte, même si le couloir est fermé encore, et c'est un milieu défensif derrière qui assure la couverture au Bayern, c'est Luis Gustavo. Donc c'est pour ça, pour tout ça, et pour en plus le côté, même si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué ensemble, Abidal Malouda, puisque c'est quand même un côté qui dure. Pour ces choses-là, je pense que Malouda devrait être devant Ribéry. Après, bon, tout ce qui est influence d'agent, etc., je ne connais pas, donc...
C'est un autre débat, on va pas partir là-dessus. De toute façon, on nous a dit que c'était pas vrai, qu'il n'y a absolument pas de quoi se poser la question. C'est vrai. Où y aurait-il de quoi se poser la question? On va pas, absolument pas. Ok, messieurs, peut-être rapidement, on va finir sur la perspective quand même, puisque les gars, on est qualifiés, hein, mine de rien, avec les forceps.
Malgré tout,
quand même, c'est bon, on va pas pleurer non plus. Hein. Pensons aux pauvres Belges qui, à mon sens, méritaient une qualification avec leur super groupe et malheureusement n'iront pas. J'espère pour eux que ça se passera mieux pour la Coupe du Monde suivante. Messieurs, les perspectives. Alors, sur qui on peut tomber? On a parlé tout à l'heure de l'Allemagne parce qu'on peut, en fonction des chapeaux, j'ai pas trop suivi, donc je vais vous laisser faire là-dessus.
On peut avoir un groupe Espagne, Allemagne, Croatie par exemple, puis la Croatie passe en barrage.
Même Allemagne, Portugal, Espagne, oui. Parce qu'il y a de bonnes chances qu'on soit dans le chapeau 4, voilà, pour le tirage au sort de l'Euro. La seule possibilité serait que le Portugal et la Croatie soient éliminés, en fait, si je ne me trompe pas.
Qui semble autant probable quand même.
Donc en partant du principe d'un Allemagne, Allemagne, Croatie, Espagne, quelles sont nos chances
De rentrer pas.
Je pense que Rudi Garcia sera un bon sélectionneur.
Ouais, on change direct.
Non mais on va pas partir d'un scénario catastrophique, mais va falloir trouver un moyen de jouer contre les meilleures équipes d'Europe, quoi, parce que on va pas partir à l'ambition de sortir du groupe. Je pense que on vient quand même pour, je sais pas, faire une demi quand même, on est équipe de France.
Bon, faut arrêter de... Abidal a dit que l'objectif c'était de remporter l'euro, j'ai dit tout à l'heure. L'objectif de l'équipe c'est de remporter l'euro, bon.
Abidal, il a cru qu'il y avait un truc qataré marqué sur son maillot. Il s'est trompé de conférence de presse. Là. Bruno, peut-être, je sais pas, tu peux peut-être nous rappeler, je sais pas si tu les as sous la main aussi, mais